Couleur FM, Espace Public, Thierry Borde, bonjour. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Espace Public, Espace Public de février 2017. Et donc encore une bonne année, c'est encore le moment, début de l'année. Il fait froid, mais c'est bientôt le printemps et on va se réchauffer tout de suite en parlant de politique. Et on va parler politique aujourd'hui avec Monsieur Yannick Noeder. Bonjour Monsieur Noeder.
Bonjour.
Monsieur Noeder, donc je ne sais pas si nos auditeurs vous connaissent tous, mais vous êtes donc un homme politique qui compte et qui compte de plus en plus dans notre département, dans notre région et dans le Nord-Isère. Vous êtes donc le maire de Saint-Étienne de Saint-Jouard, le président de Bièvre-Isère Communauté et aussi le vice-président de la région Rhône-Alpes en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, sans oublier aussi le président de l'agence d'études et de promotion de l'Isère, la EPI. Voilà, alors pour commencer peut-être, j'ai envie de vous poser peut-être une question qui va vous irriter un peu, on doit vous la poser très 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 souvent, je l'ai lu encore dans la presse, mais vous avez encore un peu de temps, ça fait beaucoup tout ça.
Ça fait beaucoup, c'est surtout que c'est arrivé en fait tout ça très très progressivement, mais si vous voulez, les choses sont faites correctement. Dans le sens que tout ça s'est construit au fil du temps sur un engagement qui date maintenant d'un peu plus de 20 ans et que ben, c'est vrai que maintenant ça va être l'heure probablement de faire un certain nombre de choix puisque je suis passé tranquillement, parce que quand vous dites un homme politique, je me retrouve jamais bien dans cette appellation.
J'ai oublié de dire que vous étiez d'abord et avant tout cardiologue.
Donc c'est effectivement un engagement public au sein d'une municipalité d'abord, et puis une petite intercommunalité. Et puis la petite intercommunalité ben, en fait, subit des modifications imposées par un contexte législatif, la loi NOTRe. Et puis elle grossit pour rester dans la cour des grands, pour pouvoir continuer à amener un certain nombre de services à sa population. Et en fait, on se retrouve effectivement à la tête d'une intercommunalité qui a bien grandi, puisqu'elle fait 55 communes maintenant. Donc voilà. Et puis l'engagement régional, c'est effectivement une rencontre avec Laurent Wauquiez, le président de la région, qui m'a proposé de conduire la liste pour l'Isère. Et puis ensuite, les choses se sont enchaînées et je suis devenu vice-président de l'enseignement supérieur de la recherche et l'innovation. Donc c'est une belle dynamique, une belle expérience. Parallèlement, j'ai souhaité maintenir mon métier de cardiologue. Je vous rassure, j'ai adapté mon temps de travail parce que les journées ne font que 24 heures. Mais je pense que c'est important de maintenir justement une activité professionnelle, surtout quand on a fait un certain nombre d'années d'études. Moi, j'ai fait 12 ans pour être cardiologue. Donc, quel que soit le mandat, aussi beau soit-il, on n'a pas envie d'arrêter. Et puis, on n'a pas envie d'arrêter non plus parce que c'est aussi peut-être ce qui me différencie peut-être d'autres collègues élus, c'est que je pense que c'est bien de ne pas dépendre des indemnités d'élus. On le voit, l'actualité est riche à ce sujet. Et je pense que justement, on garde sa liberté de penser, sa liberté de parole. Et puis, ça permet de garder aussi un pied dans le quotidien des gens.
Et c'est une pression économique qui n'existe pas en tant qu'élu, en tout cas.
Je n'ai pas envie de me mettre, en tout cas.
Ouais. Et rassurez-vous, je crois qu'il n'y a aucun de nos concitoyens qui a envie d'avoir un cardiologue en moins, donc continuez, on a besoin de vous. Alors, revenons à la politique, et en tout cas aux fonctions d'élus, à la politique au sens noble du terme. Bièvre-Isère Communauté, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce que c'est? C'est une communauté de communes, vous l'avez dit.
C'est une communauté de communes qui est née de plusieurs fusions de communautés de communes. Alors tout d'abord, la première communauté de communes que je présidais, c'est Bièvre-Toutzor, une petite communauté de communes de 11 communes qui a senti que pour un certain nombre de politiques publiques qui sont par exemple comme l'eau, l'assainissement, les ordures ménagères, elle était bien petite. Donc elle s'est unie avec une autre communauté de communes qui est centrée autour de Roibon, qui était pays de Chambaran. Donc c'était le rassemblement de deux géographies, les Chambaran et le col de Toutzor. Ça a donné lieu à une communauté de communes qui s'appelait Bièvre-Chambaran. 21 communes, et puis ensuite nous sommes unis assez naturellement avec la communauté de communes qui s'appelait Bièvre-Ollières, qui était présidée par Jean-Pierre Barbier, l'actuel président du département et député de l'Isère. Et là, on a constitué un bloc en 2014 qui faisait 41 communes. Et c'est là qu'on a vraiment senti que la collectivité s'inscrivait dans le paysage départemental, régional, et qu'elle pouvait porter des politiques publiques importante. Et puis plus récemment, au 1er janvier 2016, nous avons donc nous sommes réunis avec la communauté de communes du Pays Saint-Janet, qui est plus proche de vous. Et donc nous sommes maintenant 55 communes qui sommes unies dans un projet de territoire. Et je dirais que l'évolution des choses nous a finalement donné raison, parce qu'on est dans un contexte de raréfaction de l'argent public. J'ai regardé financièrement ce que ça donnait sur mon territoire, et depuis 2014, l'intercommunalité et les 55 communes ont vu une baisse des dotations de l'État de 7,2 millions d'euros. Donc sur des territoires comme les nôtres, qui sont relativement encore ruraux, et bien 7,2 millions, c'est énorme.
55 000 habitants, 55 communes, c'est
voilà,
ça.
C'est
en
ça.
Moyenne 1 000 habitants,
hein,
par
voilà,
commune.
En moyenne, effectivement, avec des communes qui sont très petites, puisque la plus petite commune a 80 habitants et la plus grosse 5 500. Donc des communes qui restent aussi une organisation, c'est une organisation territoriale aussi très particulière, puisqu'il n'y a pas de ville-centre, comme peuvent par exemple le connaître la Capille autour de Bourgoin-Jallieu, avec des villes-centres. Nous, c'est plusieurs bourgs avec des zones de proximité qui sont organisées. Donc c'est multipolaire, c'est XXL, parce que c'est 780 km², et tous les enjeux, c'est de garder une cohésion de ce territoire qui doit avoir des enjeux communs, un projet de territoire qui a été clairement défini, qui a été voté à une très large majorité par les élus, mais qui doit aussi pas perdre son identité, parce que c'est aussi ça les difficultés. Quand vous avez un territoire qui est plus grand, même si on a des problématiques communes d'urbanisme, d'eau, d'assainissement, de petite enfance, d'activité économique naturellement, et bien quand on est dans les Bonnevaux, on n'est pas dans la plaine de Bièvre. Quand on est dans la plaine de Bièvre, on n'est pas dans le col de Touzor ni dans les Chambarans. Donc il faut quand même garder des identités des territoires, mais pouvoir travailler en commun, mutualiser un certain nombre de choses.
La ruralité, est-ce que c'est l'un des enjeux majeurs, peut-être politiquement, des années à venir? Parce qu'on se préoccupe beaucoup des grandes métropoles, des grandes villes, des grands ensembles comme les régions. Mais finalement, les territoires ruraux, qu'est-ce qui leur reste?
Je dirais que c'est vous qui le dites, mais j'avais très envie de le dire. J'ai l'impression que la ruralité a été un peu le grand oublié ces dernières années. Il faut savoir quand même qu'en France, on a quand même 20 millions d'habitants qui vivent dans des communes de moins de 2500 habitants. Et qu'effectivement, il ne s'agit pas dans mes propos d'opposer ruraux et urbains, mais il s'agit quand même d'une forme d'équité de traitement de la population. Donc 20 millions de Français qui ne sont pas dans des métropoles, qui ne sont pas dans des villes, hein, je vous dis, sont dans des communes de moins de 2500 habitants. Et quelque part, ils ont bien le droit aussi d'avoir une qualité des services quand même correcte. Alors il est bien clair qu'on ne demande pas l'arrivée du tramway dans chacune de nos communes, mais je pense que sur un certain nombre de fonctions support qui sont essentiellement tournées sur un espèce de trépied qui est très bien identifié dans les schémas de cohérence territoriale, qui sont l'habitat, qui sont l'économie, qui sont le déplacement. Je pense que sur ces trois données qui conditionnent finalement la qualité de vie sur un territoire, eh bien on puisse quand même aussi faire entendre cette identité, prétendre à l'aménagement du territoire, c'est-à-dire qu'on développe beaucoup de zones d'activité. Nous avons 13 zones d'activité sur l'intercommunalité, ce qui est important. Nous avons à peu près 5000 entreprises, nous avons 600 commerçants, artisans, et je pense qu'il faut vraiment voir les choses dans toute la globalité, c'est-à-dire l'activité économique, c'est aussi le tourisme, avec le projet, je l'espère prochainement, du Center Park, c'est l'agriculture, c'est toute une économie de proximité, et c'est en lien aussi avec le logement. Donc tout ça doit mailler de services, hein. Chez nous, c'est essentiellement aussi la enfance. Donc tout ça doit faire en sorte que les gens puissent travailler sur le territoire, y vivre et aussi s'y déplacer quand leur activité professionnelle n'est pas sur ce territoire.
Alors puisque vous l'abordez, on peut peut-être s'arrêter deux minutes sur le Center Park, parce que effectivement Couleur FM ne diffuse pas jusqu'à Roibon, mais on entend parler de Roibon bien au-delà de Bourgoin-Jallieu et du Nord-Isère. Donc vous êtes naturellement pour utiliser des leviers économiques pour le développement de votre territoire, mais en même temps, parfois c'est un peu difficile de faire le choix entre économie et écologie quand on regarde un peu les polémiques qui sont autour
Alors, c'est pas un choix, parce que le choix est très, très clairement fait par les élus, je dirais, de quelques strates que ce soit, puisque les élus municipaux de la commune de Roibon, la précédente municipalité, la municipalité actuelle, sous l'égide de Serge Perrault, le maire actuel, soutient le projet. L'intercommunalité l'a toujours soutenu. Le département de l'Isère, quelle que soit la majorité actuelle et précédente, soutient également le dossier. Au niveau de la région, la majorité auquel j'appartiens, celle de Laurent Wauquiez, soutient clairement le projet. La précédente majorité l'avait soutenu, puis après, pour des problèmes d'accord électoraux avec les écologistes, ne le soutenait plus, parce que c'est quand même un projet qui permet 380 millions d'euros d'investissement sur le territoire, la création de 700 emplois. Et je dirais que c'est pas un choix entre l'écologie et l'économie, c'est simplement que l'écologie, déjà, tout d'abord, un certain nombre de personnes n'en ont pas le monopole. Moi, j'ai pas envie de laisser à mes enfants une planète qui n'est pas respectueuse. Mais après, il faut savoir de quoi on parle. L'impact des Chambarans sur le domaine des Chambarans, c'est 33 000 hectares et ça impacte moins de 1% le projet. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est tout à fait compatible selon les réalités économiques du territoire. On n'est pas tout à fait favorable sur une économie punitive, mais je ne veux pas non plus aller au-delà. Moi, je respecte les positions de chacun sur ce dossier. Ce que je pense qu'il faut, deux notions importantes, c'est l'état de non-droit quand même, puisque vous savez que la zone est occupée par des zadistes, hein. C'est une zone à défendre. Donc c'est quand même aussi un autre problème qui est évoqué, qui est celui de l'état de non-droit, puisqu'on occupe illégalement des terrains qui sont la propriété d'un groupe qui est celui de Pierre et Vacances. Et puis l'autre question, c'est qu'il faut attendre les décisions de justice. Bièvre-Isère, c'est pourvu en cassation, même titre que le groupe Pierre et Vacances. Et puis nous allons attendre sereinement les décisions de justice.
Parce que pour l'instant, le processus est bloqué
par l'instant, voilà, sur les espèces protégées, ça a été acté. Par contre, sur la loi sur l'eau, il y a toujours un recours. Et là, maintenant, nous en sommes au niveau de la Cour de cassation. Par contre, c'est vrai que pour l'ensemble des acteurs du territoire qui attendent beaucoup ce projet, on assiste quand même à une judiciarisation importante de la vie politique. Puisqu'on attaque, je crois, la 7e année de procédure juridique. Et ça pose un autre problème. On va être dans une année fortement électorale en 2017. Et c'est vrai que moi, je pense surtout aux gens qui sont démotivés d'aller voter. Hein. C'est compliqué. C'est une grande chance en France de pouvoir aller voter. Les Françaises l'ont que depuis 1945, ce droit. Et il est un peu bafoué parce que finalement, ces décisions qui ont été prises par les élus de favoriser l'installation de ce Center Park ont été clairement évoqué dans les programmes électoraux des différents candidats à tous les échelons. Et en fait, on a des minorités qui, en fait, n'ont pas réussi à être élues et bloquent juridiquement les projets. Donc, on est dans une judiciarisation de la vie
des
publique.
Des minorités qui étaient des majorités avant, c'est ça?
Voilà, qui étaient des majorités avant, ou même pas forcément. Et en fait, on se retrouve devant ce qu'on appelle tout bonnement les minorités de blocage. Et qu'en fait, que la démocratie, on est pour, on est contre, on en débat, la majorité décide, ma foi, c'est la démocratie. Tandis que là, on est dans des minorités qui judiciarisent les décisions et qui les bloquent, qui ne respectent de ce fait-là plus la démocratie qui a été choisie par les mêmes citoyens dont ils se revendiquent.
Bon, en tout cas, on aura compris que c'est un projet dont tous les acteurs élus, politiques, ont bien envie pour son impact sur l'emploi, visiblement. Mais qu'il y a de la contradiction. Alors, mais ça fait partie des leviers sur lesquels vous comptez, je pense, pour agir justement sur cette ruralité qu'on a peut-être trop souvent oubliée dans nos politiques publiques. Et il y a d'autres leviers. Vous venez, par exemple, de signer avec l'État un contrat de ruralité.
Alors, le contrat de ruralité, c'est une bonne mesure puisque ça permet bien de contractualiser. En fait, je vous l'ai dit, on a un territoire, mais comme dans beaucoup d'autres, hein, puisque je vois maintenant la vision régionale et je vois que tous les territoires sont soumis malheureusement au même régime. C'est la rareté de l'argent public. Donc, chaque territoire, si vous voulez, est face à un dilemme, c'est-à-dire que aucun élu n'a spontanément l'envie d'augmenter la pression fiscale, d'augmenter les impôts. On n'est pas élu pour augmenter les impôts. Par contre, on est beaucoup élu quand même dans l'idée de pouvoir maintenir une qualité des services au public. Et cette qualité des services au public, eh bien, si vous avez des baisses de dotation de l'État et que vous ne souhaitez pas majorer la pression fiscale, parce que nous sommes plutôt dans des territoires où nous avons plutôt des populations qui ont plutôt pas riches, hein, des baisses des pouvoirs d'achat peu importants, eh bien, il faut créer de la valeur sur le territoire. Et c'est sur cette action-là que moi j'essaye d'ajouer le plus possible, notamment une forte activité économique. Je vous parlais tout à l'heure, avant de parler du Center Park, qui est un projet touristique, mais il y a d'autres leviers sur l'activité économique pour créer de la valeur ajoutée sur un territoire. Il y a toute la partie touristique, dont nous avons un aéroport sur ce territoire, donc nous essayons de favoriser son développement dans ma commune, et en lien avec le département et la région, nous essayons d'augmenter le trafic de cet aéroport, qui permet d'être un équipement structurant. C'est le plus gros employeur du territoire, puisque c'est à peu près 600 emplois directs et 400 emplois indirects, donc c'est plus de 1000 emplois sur le territoire, de le mêler avec un certain nombre de choses qui donnent le renom, la renommée au territoire, le festival Berlioz. Donc on va pouvoir mettre des vols spécifiques durant le festival Berlioz au mois d'août, mais c'est quand même le gros de l'activité sur un tourisme des neiges avec 300 à 320 000 passagers par an. Et puis c'est une activité économique qui est peut-être moins commerciale, dans lequel on parle moins, mais c'est l'activité au quotidien de nos commerces locaux, de nos artisans et puis de nos entreprises, puisque nous avons vendu sur 13 zones d'activité 55 000 m² de terrain, ce qui a permis quand même l'installation en 2016 de 12 entreprises pour pouvoir justement créer cette fameuse valeur ajoutée. La taxe professionnelle qui n'existe plus, qui est la contribution économique territoriale, est versée à l'intercommunalité. Cette intercommunalité, parce qu'on parle d'argent public, l'argent public c'est simplement de l'argent finalement généré par les entreprises qui passe dans la grande machine des intercommunalités, des collectivités locales, et cet argent qui est de l'argent privé gagné avec les entreprises, qui provient des fruits de la fiscalisation des ménages, devient de l'argent public et permet de rayonner sur des politiques plus onéreuses comme la culture, la petite enfance, le sport, que nous développons pour améliorer la qualité de vie sur le territoire.
D'accord. Et alors, vous avez des exemples concrets de ce que va permettre ce contrat de ruralité ?
Oui, il y a tout un volet de réfection, notamment du centre nautique à Qualib, qui a 10 ans, donc on va pouvoir lui faire un lifting. Il y a un certain nombre de gymnases qui vont avoir des gymnases qui datent de 1960, donc il y a besoin effectivement de rénover les structures qui permettent à tous nos scolaires. On a calé un projet territoire du fait de notre multipolarité et notre grande taille de territoire. En gros, l'intercommunalité intervient sur les équipements sportifs quand ils sont à proximité des collèges ou des lycées, puisque c'est un lieu de centralité, et puis pareil, de favoriser aussi les médiathèques, la lecture publique. Donc ça sera plutôt médiathèque, ça sera piscine couverte, ça sera gymnase, voilà, pour les parties très immergées et très voyantes de l'iceberg. Et puis sur des choses aussi très structurantes, de fond, comme l'assainissement. Alors c'est moins vendeur, mais c'est quand même particulièrement important, puisque vous ne pouvez pas avoir de plans locaux d'urbanisme. Nous sommes en plein plan, en pleine élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal, qui permettra justement de permettre l'installation de nouveaux habitants, la création de nouvelles bases, mais la création de nouvelles entreprises. Et ce plan local d'urbanisme, et ben, il y a un certain nombre de nécessités avant de pouvoir le voter. C'est prévu pour 2019. Et bien, il faut avoir aménagé la partie assainissement, parce que vous ne pouvez pas rendre constructif des terrains qui ne sont pas assainis. Donc il y a de gros travaux chaque année sur l'assainissement, et notamment sur l'investissement qui sera cette année autour de 17 millions d'euros sur les 77 millions du budget de l'intercommunalité, sur une partie importante sur l'assainissement.
Très bien. Eh bien, on va faire une petite pause avant de revenir tout à l'heure pour parler un petit peu de promotion de l'Isère avec l'AEPI et une petite pause musicale.
Just I just put my hands up into the sky, feet alive. Got a rocket ship that I wanna ride. Put my hands up into the sky, feeling inside. Wherever you are, I find a treasure. Put my hands up into the sky, feeling alive. I got a rocket, eyes on a prize. Put my hands up into the sky, I wanna fight. Wherever you are, I find a treasure. So I race for it.
Voilà, vous êtes bien sur Couleur FM 97.1 dans le Nord-Isère et nous sommes avec Yannick Noeder. Yannick Noeder, donc je le rappelle, maire de Saint-Étienne de Saint-Jouard, cardiologue par ailleurs, mais aussi vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes en charge de l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Et j'ai oublié, parce qu'on vient tout juste d'en parler, il est président de la communauté de communes Bièvre-Isère Communauté. Alors, merci monsieur Noeder d'être parmi nous aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu maintenant sur l'AEPI, l'Agence d'études et de promotion de l'Isère. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
Ben écoutez, oui, en quelques mots, suite au changement de majorité du département de l'Isère, quand Jean-Pierre Barbier est devenu président du département avec sa majorité, le département avait décidé de transférer son activité économique à une agence de développement économique. Et il se trouve qu'il était compliqué que ça soit un élu départemental qui préside cette agence économique pour éviter justement, en toute transparence, la gestion de fait. Donc il y a différents collèges qui composent la gouvernance de cette agence. Et j'y suis au titre des élus communaux et intercommunaux. Et c'est avec beaucoup de surprise que je me suis retrouvé à la tête de l'agence d'études et de promotion de l'Isère, l'AEPI. Mais c'est aussi un challenge très intéressant parce que c'est particulièrement au cœur de l'actualité, puisque la loi NOTRe, entre-temps arrivant, a finalement réorganisé. Alors plus ou moins bien d'ailleurs, mais bon, je vais pas polémiquer.
J'ai lu un bon mot dans la presse, vous avez vraiment dit la loi NOTRe c'est pas la mienne.
Voilà, la loi NOTRe c'est pas la mienne effectivement, puisque moi je suis tout à fait d'accord de diminuer le millefeuille, de simplifier les choses, mais là sur la loi NOTRe j'ai pas le sentiment qu'on a peut-être mis les choses dans le bon sens, puisque globalement cette loi sur l'activité économique dit que maintenant sont compétents pour l'activité économique l'intercommunalité, donc ça on le savait, et puis maintenant la région au détriment entre guillemets des départements, ce qui peut tout à fait s'expliquer. Simplement c'est que en fait les transferts financiers n'ont pas suivi, c'est-à-dire que le département n'a plus la compétence mais a gardé les financements, et la région se retrouve compétente depuis le 1er janvier mais n'a pas les financements qui vont avec. Donc c'est un vrai sujet national dont nous discutons à l'Association des régions de France, puisque globalement il y a à peu près 800 millions d'euros de delta pour pouvoir continuer cette activité qui est fondamentale, hein, l'activité économique pour notre pays. Nous avons eu des propositions qui ont été refutées, notamment par le président de région Laurent Wauquiez, qui était de mettre une taxe pour pouvoir eh bien, faire face à cette dépense supplémentaire. Nous, c'est une volonté politique forte de ne pas majorer les impôts et de créer toute taxe. Donc nous avons quelques difficultés à pouvoir effectivement avoir un dialogue clair, et puis la période préélectorale et présidentielle favorise pas les choses. En tout cas, pour l'instant, la compétence économique est passée à l'échelon de la région. On estime autour de 110 millions d'euros qu'elle devra être assurée par la région. Pour l'instant, nous avons eu 45 millions d'euros de confirmés par l'État, et puis nous allons voir au gré de l'année 2017, en fonction aussi de l'évolution des urnes du mois d'avril, avril, eh bien, comment les choses iront. Quoi qu'il en soit, cette agence, elle permet la promotion de l'Isère dans, d'une façon générale, particulièrement aussi à l'international, puisqu'on a une particularité en Isère, c'est que 4 emplois sur 10 sont à pavillon étranger. Donc cette agence a des ramifications également à l'international, à Taïwan, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, en Corée, ce qui permet eh bien, effectivement de capter des entreprises nouvelles pour qu'elles viennent s'installer en France. C'est également aussi toute une activité de registre, d'observatoire sur l'activité économique et puis de promotion permanente sur les territoires qui sont tous à même, du Vercors jusqu'au Trièves, en passant par la Capie, Vienne Aglo, Bièvre-Isère, le Pays Voironnais, la métropole de Grenoble, de pouvoir accueillir des entreprises, créer l'activité en économique en Isère, puisque tout ce qui est bon pour l'Isère est bon pour la région, et nous sommes la deuxième région de France, donc nous devons avoir une activité économique forte.
Donc la EPI, c'est vraiment cette relation économique pour attirer les entreprises en Isère.
Oui, qui d'ailleurs fait un certain nombre d'actions de promotion, notamment les ambassadeurs de l'Isère qui ont eu lieu récemment. D'ailleurs, on s'y était rencontrés avec plaisir. Et je pense que cette agence, justement, va muter du fait du contexte législatif nouveau, et elle va devenir une antenne départementale de l'agence économique régionale, puisqu'il y aura maintenant une seule et grande agence régionale pour les 12 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour les 3 métropoles. Pour pouvoir eh bien, avoir un interlocuteur unique avec, en tout cas l'esprit qui anime la région actuelle, c'est de simplifier aussi au maximum tout ça pour que les entreprises qui ont besoin eh bien, d'avoir un support régional puissent avoir un interlocuteur direct. Et puis moi je suis vice-président à la recherche et à l'innovation, que l'on puisse aussi surtout eh bien, faire. Il y a beaucoup de pépites dans notre région, et particulièrement en Isère. On est vraiment un territoire, un département riche en innovation, en recherche, et ce qui est dramatique, c'est qu'on ne sait pas forcément aller sur toute la filière de cette recherche jusqu'à la commercialisation du produit. Hein. Vous savez, toutes ces phases hein, qu'on connaît bien, il y a la recherche fondamentale, puis ensuite il y a la recherche appliquée, on fait des prototypes, puis après ben, il faut industrialiser, commercialiser tout ça, et parfois là on a besoin d'être pertinent dans des aides, puisque sinon c'est une espèce de vallée de la mort. On a plein de pépites, plein de start-up, on l'a bien vu à CES quand on est allé, quand Laurent Wauquiez avec ses équipes est allé à Las Vegas, dans la salle on va dire start-up, la France est très bien représentée, particulièrement la région Auvergne-Rhône-Alpes. Par contre quand on voit ensuite le nombre d'entreprises, eh bien là d'autres pays européens, mais pas uniquement, notamment les Américains et les Chinois, savent beaucoup mieux capitaliser toute cette force innovante pour pouvoir la transformer en valeur ajoutée. Et là-dessus, la région a un rôle majeur de pouvoir aider toutes les entreprises innovantes pour ensuite faire en sorte qu'elles restent en France, qu'elles s'installent, alors si possible en Auvergne-Rhône-Alpes et pourquoi pas en Isère et pourquoi pas à la Capie, pour faire plaisir à nos auditeurs, pour pouvoir eh bien, créer de l'emploi, créer de l'activité économique chez nous.
D'autant que l'Isère est un territoire qui, traditionnellement, historiquement, est vraiment fleuron en termes d'innovation, d'entreprises qui marchent.
Pas un hasard si je suis l'Isère et je suis vice-président à l'innovation. Hein.
C'est bien pour ça.
Voilà.
Eh bien, ça fait la transition. Vous êtes aussi vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes, parce que maintenant, il y a les deux qui vont ensemble. Et ben d'abord, c'est un changement de dimension assez... assez particulier, c'était un petit peu difficile cette réarticulation de la région, ou ça s'est facilement.
Je dirais pas que c'est difficile, parce que moi déjà je suis pas un élu qui me plaît, parce qu'on n'est jamais élu par hasard. Il y a une volonté. Alors on sait pas forcément toujours calculé dans les plans de carrière, mais à un moment vous acceptez ou pas de vous présenter à une élection. Donc voilà. Après c'est quand même, on va quand même pas se faire plaindre parce qu'on a été élu. Donc je pense que c'est une évolution dans une expérience de vie élective. Je vous le disais, municipale, intercommunale. Maintenant c'est régional, chaque strate a son lot de difficultés et de satisfactions. Par contre c'est vrai que c'est un grand changement d'échelle, puisque c'est 8 millions d'habitants, c'est 12 départements, 3 métropoles pardon, et sur le secteur qui est le mien, donc l'enseignement supérieur, la recherche, l'innovation, c'est vrai que c'est des chiffres qu'il faut pouvoir adapter, puisque moi j'ai 300 000 étudiants qui sont répartis dans 8 universités, une quarantaine de grandes écoles, une quinzaine d'IUT, un nombre certain de BTS dans les lycées, donc c'est un gros volume. Il y a 40 000 chercheurs, Voilà, il y a vraiment un effet volume qui nous positionne effectivement dans le top 10 des 10 régions de France et qui nous positionne comme deuxième région de France, tant en pourcentage de PIB par rapport à l'investissement dans la recherche, qu'en nombre de brevets, qu'en nombre de thèses. Donc on est une région particulièrement riche de son enseignement supérieur. Et cet enseignement supérieur, naturellement, il concourt au rayonnement de la région sur le national et l'international, mais également c'est une source d'irrigation au niveau des territoires. J'ai pas mal voyagé sur la région durant cette année 2016, qui était vraiment une année de fusion, transition. Les deux régions ont fait connaissance, je dirais, pour n'en faire plus qu'une seule. Donc il y a eu beaucoup de travail de convergence des process. Nous avons voté d'ailleurs un budget en 2016. Nous en avons voté un autre en décembre pour le budget, en avril 2016 pour l'année 2016, en décembre 2016 pour l'année 2017. Donc ça a été une année très riche, puisqu'avec en un an, il a fallu fusionner 8 millions d'habitants, 12 départements, les 3 métropoles, voter 2 budgets et puis se poser sur cette délégation dont je viens de vous présenter l'aspect macroscopique. Et ensuite, ce qui est important, c'est de découvrir qu'au gré des visites dans les territoires, eh bien, c'est une force source d'attractivité, l'enseignement supérieur dans les villes, parce que ça décloisonne très fortement avec le milieu économique. Et je pense que ce qui est important, justement, c'est de pouvoir bien tenir compte des besoins du monde économique, tant sur la formation, sur les besoins pour pouvoir eh bien, former, que ça soit dans le secondaire, que ça soit dans le supérieur, que ça soit par l'apprentissage, eh bien les métiers dont on a besoin, les métiers qui sont en tension. Et la première des luttes que nous avons au niveau de la région, c'est vraiment une lutte contre l'emploi. Et pour cela, nous avons
pour l'emploi,
enfin lutte contre le chômage, mais pour favoriser l'emploi, vous m'avez bien compris. Et pour ça, nous avons deux leviers qui sont importants à la région, c'est la formation et c'est l'innovation.
Vous avez dit vouloir faire d'Auvergne-Rhône-Alpes la région leader en Europe. Alors ça passe aussi par l'enseignement supérieur, la recherche.
Oui, bien sûr.
Quel développement ?
Alors les développements, donc nous sommes la deuxième région de France. Mais par contre, ce qui est important maintenant, c'est différentes choses. C'est le rayonnement à l'international. Donc ça, c'est extrêmement important qu'on soit très bien positionné, notamment vis-à-vis des États-Unis, certes, mais aussi vis-à-vis de l'Asie. Nous serons dans une quinzaine de jours avec le président de région, justement, en Chine, pour toutes les marchés émergents, pour des accords, notamment au niveau de l'enseignement supérieur de la recherche, avec une signature d'une convention avec l'université de Shanghai. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est le rayonnement à l'international, c'est l'attractivité. Et puis surtout aussi au niveau européen, nous sommes une région qui compte dans les dix premières régions de France et pour lequel nous devons aussi eh bien, faire effet levier. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte du contexte global. Nous avons le Brexit. On ne peut pas envisager la question européenne sans envisager le Brexit. L'Angleterre quitte donc l'Europe. C'était un fort contributeur. Donc nous devons aussi redoubler, nous, de vigilance, les Français, pour pouvoir eh bien, faire effet levier sur les fonds européens, puisque vous savez que la région va gérer plus de 3 milliards d'euros de fonds européens. Donc il faut que nous soyons en capacité sur les domaines qui sont les miens, à savoir l'enseignement supérieur, la recherche, l'innovation, de pouvoir fédérer l'ensemble des forces en présence au niveau de la région pour aller chercher justement des fonds européens, puisque bah, il y a des fonds régionaux, des fonds nationaux, puis après il y a des fonds européens qui permettent que des projets de recherche se réalisent. Et ça, je pense qu'il faut faire un peu le chasser en meute, comme sait très bien le faire le monde économique. Nous travaillons beaucoup avec le Baden-Württemberg, la Catalogne, la Lombardie, qui sont les quatre moteurs de l'Europe, qui sont actuellement présidés par le président de région Laurent Wauquiez, et nous mettons en place toute une stratégie régionale sur la recherche et innovation qui nous permettra eh bien, de prétendre à des fonds européens pour développer un certain nombre de secteurs qui sont promoteurs et pourvoyeurs à terme d'emplois dans nos territoires.
Oui, voilà, parce que c'est important peut-être de rappeler que donc Rhône-Alpes et maintenant Auvergne-Rhône-Alpes fait partie de ces quatre moteurs, ces quatre régions les plus puissantes, les plus développées
La chance de Auvergne-Rhône-Alpes, c'est d'avoir ce qu'a l'Île-de-France, c'est d'avoir le savoir académique. Hein. Nous avons 3 académies en Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons donc un savoir-faire académique au même titre que l'Île-de-France. Mais nous paraissons comme la première région de France en termes d'industrialisation. population. Et c'est ça la valeur ajoutée de notre région. Et il faut absolument casser les silos entre le monde académique, le monde économique, clusteriser tout ça, en fait que l'ensemble des acteurs, qu'ils soient économiques, de recherche, académiques, puissent travailler ensemble et puis eh bien, fédérer leurs forces sur des filières et des filières qu'on va dire d'excellence, hein, qui sont le terme consacré. Et sur ces termes d'excellence, eh bien, on concourt à l'excellence au niveau de la région, mais en n'oubliant pas non plus toute notre économie de proximité. Et le fait d'avoir les deux pieds bien dans le sol à Bièvre-Isère me permet de bien voir qu'effectivement il y a des sujets nationaux, internationaux d'excellence où il faut chasser en meute, et puis il y a aussi toute cette économie de proximité. Et je pense que les deux visions ne sont pas incompatibles, au contraire elles sont complémentaires.
Et alors, toujours sur ce leadership et toujours sur l'enseignement supérieur, vous devez accompagner, et j'imagine de manière très volontariste, cette fédération, justement cette unification de l'Université de Lyon.
Oui.
Avec l'Université de Saint-Étienne, etc., qui veut devenir l'une des grandes universités au monde. Oui.
Alors, je vous le disais, en fait, ce qui concourt à fédérer tout ça, eh bien, c'est qu'effectivement, il y a des initiatives d'excellence, hein, qui sont des labellisations qui sont dotées de forts fonds financiers. Nous avons trois académies, et moi, je veille au bon équilibre de l'enseignement supérieur au niveau de la région. Je prends souvent l'image d'un trimaran avec une coque importante sur l'Université de Lyon qui regroupe Lyon et Saint-Étienne, et puis de chaque côté, pour le bon équilibre des choses, l'Auvergne et puis le sillon alpin. Donc le sillon alpin autour de Grenoble a été labellisé initiative d'excellence, donc il y a un IDEX. Et puis le 25 février, nous aurons la réponse sur l'IDEX de Lyon et l'IDEX d'Auvergne, qui sont en gros des labellisations d'excellence qui permettent de prétendre un certain nombre de fonds financiers qui permettront eh bien, de favoriser tous les projets d'innovation, de recherche, aussi qui permettront aussi d'améliorer les conditions de vie des étudiants. C'est très important, hein, les 300 000 étudiants doivent prétendre à des conditions de logement, à des conditions de santé, d'activités sportives, de culturelles. Donc on ait des étudiants qui puissent être dans de bonnes conditions pour étudier. C'est aussi une des priorités de la région. Mais pour ce faire, elles doivent répondre aussi à un certain nombre de critères, un peu d'organisation, de gouvernance. Et c'est vrai que les critères, eh bien, nous avons plusieurs universités à Lyon, hein, Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, l'Université de Saint-Étienne, de certain nombre de grandes écoles. Et effectivement, au terme, en 2020, il sera proposé qu'il y ait un établissement unique pour cette grande communauté universitaire de 150 000 étudiants sur l'axe Lyon-Saint-Étienne qui correspond à l'Académie de Lyon, comme l'a fait déjà l'Académie de Grenoble en fusionnant ces trois universités à Grenoble, et comme vient de le faire l'Auvergne puisqu'ils viennent de fusionner l'Université Blaise Pascal et Clermont-Ferrand pour donner l'Université Clermont d'Auvergne.
Très très bien. Voilà, d'une perspective d'évolution, donc à quelques années, l'innovation, la recherche, donc j'imagine que tout ceci, avec cette volonté d'excellence économique et qualitative, fait qu'il y a une grosse part de votre attention qui est donnée à la recherche aussi.
Qui est donné à la recherche et puis qui est donné aussi beaucoup à l'international, puisqu'on est la première région de France à envoyer nos étudiants à l'international. C'est un budget important, 15 à 16 millions d'euros, c'est 12 000 étudiants chaque année qui partent à l'international. Et ça, je pense que c'est ouverture d'esprit, puis on le sait très bien. Ensuite, les étudiants qui ont eu une expérience internationale, eh bien, ça se ressent lorsqu'ils sont demandeurs d'emploi, quand ils sont en compétition pour décrocher un job, eh bien, l'expérience internationale les aide, leur favorise. Donc il y a un certain nombre d'axes que l'on souhaite privilégier. Et puis on privilégie beaucoup aussi l'entrepreneuriat étudiant, c'est-à-dire des étudiants qui deviennent entrepreneurs, qui créent leur propre start-up. On est la première région de France sur l'entrepreneuriat étudiant. Et ça, c'est très bien. Concernant la recherche, il y a des grands leaders, particulièrement en Isère, que ce soit l'INSERM, que ce soit le CEA, que ce soit le LETI, c'est des gros labos de recherche, qu'ils soient d'ailleurs publics ou privés, hein, ça c'est important, avec des filons importants. Particulièrement en Isère, il y a tout ce qui est la nanotechnologie, naturellement, mais on n'est pas en reste non plus sur tout ce qui est la chimie. On a un secteur important sur la chimie entre le Roussillon et puis la plateforme de Pont-de-Claix. Et puis également aussi, pas très loin d'ici, le pôle construction avec les matériaux innovants, tout ce qui est important sur le BTP avec des grands noms du BTP que vous connaissez ici avec Eiffage, avec Merceron Vica, avec tout ce qui font aussi la valeur ajoutée du BTP si cher à Sonorizer.
Très bien. Alors on va faire une dernière pause musicale et puis on se retrouvera juste après pour la dernière partie de cette émission. Couleur FM 97.1, nous sommes toujours dans le magazine Espace Public en compagnie de Yannick Noeder, maire de Saint-Étienne de Saint-Jouard, président de la communauté de communes Bièvre-Isère Communauté et vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Monsieur Noeder, merci encore d'être parmi nous et pour terminer cette émission, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'avenir. On va regarder un petit peu dans notre boule de cristal, ou dans la vôtre plutôt. Et puis voilà, on a parlé de toutes vos fonctions d'élu. Vous nous aviez dit tout à l'heure que bah, peut-être un jour, effectivement, il faudrait faire un choix. Mais on comprend bien que vous êtes tellement investi et attaché à ces missions que ce choix sera cornélien. Mais peut-être ça va-t-il être un petit peu précipité dans les temps qui viennent. Parce qu'il y a des législatives qui arriveront juste après les élections présidentielles. Et vous êtes, on peut dire, hésitant ou...
Non, c'est pas question d'être hésitant. Je crois que pour l'instant, il y a un député en place, qui n'est autre que Jean-Pierre Barbier, le président du département. Et je crois que la première, déjà, des corrections, c'est d'attendre le choix du député sortant, de savoir si effectivement, du fait de la loi sur les cumuls des mandats, il va, choix cornélien, hein, il l'a d'ailleurs dit à ses voeux, lors de ses voeux à sa circonscription la semaine dernière, choix cornélien entre effectivement eh bien, soit rester président du département, soit rester député. Et je crois que justement c'est la sagesse de savoir respecter la décision des collègues élus, et puis en fonction, eh bien, en fonction de son choix, eh bien, ça redistribuera les cartes sur le territoire et nous pourrons à ce moment-là en discuter.
Donc voilà, et qu'est-ce qui, vous savez ce qui va motiver ces choix et que vous respecterez de toute façon ?
Bah, je crois qu'il y a une part déjà de décision personnelle, hein. Je pense que Jean-Pierre n'est pas pour ses premières années, voilà, donc il y a un engagement fort sur le département de l'Isère et puis il y a un engagement également au niveau national. Donc qu'est-ce que le choix, son intime conviction, qu'est-ce qu'il préfère? Mais je crois qu'il l'a très bien dit lui-même, ce n'est pas en fait ce qui est important, c'est pas ce que va devenir Jean-Pierre Barbier, c'est qu'effectivement, eh bien, sur le département de l'Isère, sur cette circonscription comme dans l'autre, eh bien, il y a des élus qui ont envie de faire bouger les territoires, qui ont envie de s'investir. Et je pense qu'on a un peu le même profil. Il est pharmacien, je suis médecin. Le fait d'avoir aussi un métier dans notre activité professionnelle, de ne pas dépendre de ce système politique, d'en accepter les règles et de s'y plier et de continuer à faire avancer les choses, mais de garder une certaine liberté est importante. Donc je crois que c'est pas tout à fait, on vient de finir la période des vœux, je crois que dans les semaines qui viennent, eh bien le député Jean-Pierre Barbier nous fera part de sa décision. Et à ce moment-là, bah, je vous propose que vous me réinvitiez et puis je vous dirai.
Oh, ce sera avec grand, grand, grand plaisir. Et cette présidentielle qui va précéder les législatives, on a vu effectivement les Républicains dans cette primaire. On a vu tout le monde qui se range derrière François Fillon. Et aujourd'hui, comment vivez-vous ces affaires, ces remous?
Ben, je crois que je pense que tout ça ne donne pas envie à nos concitoyens de se mobiliser. Je pense que c'est surtout ça, c'est des messages négatifs. Il y a eu des primaires à droite. On n'avait pas, c'est pas une culture de nos partis traditionnels d'avoir des primaires. Je crois qu'elles se sont particulièrement bien passées éthiquement. Il n'y a pas eu aucune discussion sur les résultats. Voilà, c'était pas mon choix, François Fillon. Hein, je m'étais exprimé. J'avais choisi.
Nicolas Sarkozy.
J'avais soutenu Nicolas Sarkozy. Ensuite, François Fillon a su rassembler autour de lui. Et là, je crois que ce qu'on assiste aussi, c'est un petit peu, enfin bon, on voit quand même une judiciarisation particulièrement rapide du phénomène concernant l'emploi de son épouse. Donc je pense qu'il faut raison garder. L'histoire nous a déjà appris où effectivement il y avait un emballement judiciaire. Ben moi, je souhaite maintenant le même emballement pour pouvoir faire en sorte que François Fillon puisse apporter tous les éclaircissements, tous les éclairages à la justice. Il a été auditionné. Eh bien, je pense qu'il faut laisser la justice se faire, qu'on laisse en tout cas les gens se défendre. Mais je trouve quand même que le calendrier est quand même assez étonnant, comme par hasard, à 3 mois d'une présidentielle, quelqu'un qui a eu 20 ans d'activité, 30 ans d'activité politique sans aucun scandale, sans aucune mise en cause, et comme par hasard, à 3 mois de la présidentielle. Bon, je pense qu'il faut lui laisser le temps d'apporter les précisions nécessaires en toute transparence.
Il y a toujours de très nombreux hasard avant les élections.
Voilà, un de plus.
Ce ne sont que des coïncidences, bien entendu. Mais vous disiez qu'il était important d'être indépendant de ces indemnités d'élus, mais peut-être est-ce le meilleur exemple dans cette actualité. Alors, pour rappeler, nous enregistrons cette émission le jour même, justement, où François Fillon est entendu par la justice. Vous entendrez cette émission un petit peu plus tard, et donc peut-être celle-ci aura avancé. Voilà, en attendant, Monsieur Noeder, je suis ravi de vous avoir reçu ici, d'avoir présenté à nos auditeurs un petit peu plus que ce qui est Bièvre-Isère Communauté, qui est pour beaucoup voisine de notre bassin de diffusion, mais où j'espère nous sommes un petit peu écoutés, peut-être sur le site internet, je vais me permettre justement de le rappeler pour une fois, c'est www.couleurfm.com, et puis nous vous réinviterons quand vous voudrez, et si jamais les perspectives électorales
Écoutez, je vous remercie. Et puis, j'ai appris aussi, moi, quelque chose. 97.1, donc je vais pouvoir le mettre dans la voiture dès que je vais sortir d'ici.
Voilà, et puis j'espère qu'en plus, notre radio ira jusqu'à chez vous très bientôt l'année prochaine grâce à la radio numérique terrestre où nous serons présents.
Quel très haut débit. Merci à tous.
Merci à vous.